France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Tous au garage, les propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata priés de les faire changer et en urgence. 2,5 millions de voitures concernées après les dernières décisions du gouvernement. Comment s'organiser? Nous voyons cela dans un instant. Nous irons en Lorraine, course-poursuite entre policiers et trafiquants de drogue. Hier soir, il y a 2 morts, dont un policier belge. À Lille, des vols de câbles sur les rails et une pagaille ce matin dans le trafic SNCF. Et puis en Bretagne, nous vous détaillerons comment fonctionnent les plans algues vertes au lendemain de la condamnation de l'État. À suivre encore, le manque d'eau dans notre pays. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
On parle de stress hydrique et on a de nouvelles données depuis ce matin.
Oui, que les printemps soient secs ou humides, il y aura de graves tensions partout en 2050. L'été, 88% du territoire connaîtra des situations de crise, mais on peut encore agir et limiter la crise.
Et pour ce qui est de ce mercredi, 52 départements sont en vigilance orange, orage et canicule, prévision complète. Dans une demi-heure, le sommet de l'OTAN à La Haye. Donald Trump se veut rassurant ce matin avec ses alliés. Nous y serons et nous nous demanderons aussi à quoi ont servi au final les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Sans oublier les sorties cinéma en ce mercredi avec Alexis Demeyer. Et puis la colère à Lyon des supporters de foot de l'Olympique Lyonnais rétrogradés hier soir en Ligue 2.
C'est catastrophique aussi, non? Parce qu'on n'est pas Saint-Etienne quand même. On pensait pas que ça allait arriver vraiment, mais ça fait mal au cœur, on va dire. On est KO.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, pourquoi sommes-nous aussi pessimistes? Pourquoi les informations négatives sont-elles davantage relayées que les positives? Le politologue Eddy Fougier a des réponses. Il plaide pour l'optimisme. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi tant de haine? Ce sera avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Solane, Léonard Cohen et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Vous retrouvez la liste précise sur le site du ministère de l'écologie, ecologie.gouv.fr. 2,5 millions de voitures sont désormais concernées par les mesures de sécurité pour éviter que les airbags défectueux Takata ne fassent de nouvelles victimes dans notre pays. Et quand vous consultez la liste, vous vous rendez compte que quasiment toutes les marques sont à risque, à l'exception de Renault et de Fiat. Alors pour l'instant, le bilan est de 18 morts, 25 blessés, dont 16 morts outre-mer, car la chaleur est l'un des facteurs déclenchants de ces explosions. Mais 14 mois après les premières explosions, le gouvernement a donc décidé de passer la vitesse supérieure sur tout le territoire dans le remplacement de ces airbags, un remplacement à la charge des constructeurs. Reste à savoir si les garages et les concessionnaires suivent. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Vous avez rencontré des automobilistes concernés ce matin.
Oui, grosse inquiétude pour Raphaël, venu devant son concessionnaire Citroën avec l'espoir de décrocher un rendez-vous.
Moi j'aimerais le faire, mais ils ont trop de demandes. J'ai l'impression qu'ils s'occupent d'abord des C3, des DS3. Et effectivement, je suis un peu inquiet. C'est pour ça que je disais qu'il vaut peut-être mieux le désactiver, parce qu'au moindre choc, il s'enclenche. Je préfère rouler sans airbag plutôt qu'avec un airbag qui va me tuer au premier choc. Quoi.
Oui, car chez Citroën, seules les gammes C3 et DS3 sont concernées. Désormais, quelle que soit l'année et le modèle, Johan, lui, a eu la chance de décrocher un rendez-vous dès ce matin. Après des semaines d'attente, quand même, le concessionnaire va lui changer son airbag de sa DS3 juste avant son départ en vacances.
Je suis arrivé ce matin, ils m'ont expliqué qu'ils avaient manifestement du stock par rapport aux airbags en question. Mais en gros, on vous dit que vous ne pouvez plus conduire le véhicule. Et quand vous essayez de trouver une solution par rapport à ça, c'est assez compliqué en termes de parcours. Donc là, c'est bien tombé, je suis plutôt content que ça puisse se régler. Ouais.
Et au-delà de cette nouvelle vague, le ministre des Transports demande aux constructeurs de lancer sans attendre le rappel de tous les véhicules équipés de l'airbag concerné, et ce, quelle que soit l'année et le modèle.
Merci Laurent Kramer. Ces rappels sont décidés dans l'improvisation la plus totale, dénonce ce matin l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Vous retrouvez les enquêtes de la cellule investigation de Radio France sur ce dossier des airbags Takata sur le site de Radio France. Sur les routes de l'Eure hier soir, la mort d'un jeune agent de la direction interdépartementale des routes. Il a été percuté par une camionnette qui roulait à vive allure. Lui était en train de signaler un véhicule en panne nationale 154, commune d'Eudreville-sur-Eure. Là, c'est une course-poursuite en Moselle qui s'est conclue hier soir par un accident mortel. Des policiers belges pourchassés ce qu'ils pensaient être un go-fast, un transport de drogue. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
L'un des occupants de la voiture et un policier belge sont morts.
Oui, c'est en Belgique que s'est engagée cette course-poursuite avec un véhicule suspect durant laquelle les occupants semblent s'être débarrassés de produits stupéfiants. Passé le Luxembourg, puis la frontière française, le go-fast s'est subitement arrêté sur le bas-côté d'une route à deux fois deux voies à Angevillé. C'est au nord de Thionville. Les deux occupants ont quitté le véhicule. Le passager a pris la fuite en longeant les voies et a été interpellé. Mais le conducteur a tenté de traverser la quatre voies poursuivi par un des policiers belges. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes ont été percutés par un véhicule. Arrivant en sens inverse, ils sont morts sur le coup. Le passager est en garde à vue pour complicité de refus d'obtempérer et trafic de stupéfiants, précise le parquet de Thionville, qui par ailleurs vérifie la légalité des conditions de cette course-poursuite des policiers belges au-delà de leurs frontières. Des expertises techniques et des autopsies permettront également de confirmer les circonstances de ce drame.
Jean-Philippe Degnaud pour ses informations. Toujours sur les routes, plusieurs départements français cherchent en ce moment des solutions pour faire baisser le nombre d'accidents mortels. Avec en Dordogne cette proposition radicale. Le président du conseil départemental, Germinal Peyrot, veut proscrire l'alcool dans tous les stades autour des matchs amateurs. La loi Evin l'interdit déjà, mais les clubs ont droit à 10 dérogations par an. Son constat est le suivant, il y a eu trop de bagarres, trop d'accidents liés à l'alcool ces dernières semaines, notamment avec des jeunes.
Il est temps de dire stop. Et il faut faire ce qui a été fait aux Jeux Olympiques. On a servi de la bière, mais c'était de la bière sans alcool. Et moi, j'espère que le département de la Dordogne va prendre ce virage-là. Je suis parfaitement conscient que les buvettes, c'est une recette très importante pour les clubs. Je suis conscient aussi que les brasseurs locaux doivent faire des investissements pour produire de la bière sans alcool. Mais je crois qu'on est obligé de le faire. Moi, je n'accepte pas de voir la jeunesse de la Dordogne s'alcooliser comme elle le fait. Quand un jeune se saoule une fois par semaine, il y a toutes les chances qu'il devienne un alcoolique. Eh bien, ça, on ne doit pas le tolérer. Les enceintes sportives doivent être des enceintes qui sont préservées de la violence, des stupéfiants et de l'alcool.
Propos recueillis par Ici Périgord. De grosses perturbations pour le trafic des trains ce matin autour des gares de Lille, surtout sur les trains à grande vitesse. Plusieurs sont supprimés et il y a de gros retards. En cause, un vol de câbles, 600 mètres de câbles volés ou coupés au sud de la gare Lille-Europe. Jeanne Serrin, vous êtes sur place. Des agents sont à pied d'œuvre pour rétablir le trafic.
Oui, c'est un travail de fourmi qui occupe depuis ce matin la vingtaine, vous l'avez dit, d'agents qui sont ici sur les rails. C'est dans la nuit que l'incident a été constaté. 600 mètres de câbles sectionnés donc. Les premiers agents sont arrivés quelques minutes après pour essayer de trouver où se situait exactement le problème. L'incident identifié, il a fallu ensuite commander le matériel nécessaire, tous ces câbles. Et ce matériel, il vient pour la plupart de Arras. Ça prend du temps donc à arriver jusqu'ici. Depuis 9h ce matin, seulement 4 câbles ont été ressoudés, mais il faut encore les tester. C'est un véritable travail d'orfèvre. Autant vous dire que l'incident est loin d'être résolu. Ici, quelques trains circulent devant nous au compte-gouttes et au ralenti à une vitesse de 30 km/h, ce qui occasionne de nombreux retards en gare. La SNCF invite donc tous les voyageurs concernés par ces problèmes à reporter leur voyage et à échanger gratuitement leur billet ou faire une demande de remboursement. Enfin, concernant l'enquête, la police s'est rendue ici ce matin pour constater les dégâts, mais aucun auteur présumé n'a pour l'instant été identifié.
Précision à Lille, d'ici Nord. En Auvergne, aucun train ne circule aujourd'hui à partir de 16h. Cela concerne les 4 départements auvergnats. Par exemple, le dernier train pour Clermont au départ de Paris est parti ce matin à 9h, gare de Paris-Bercy. La SNCF veut en fait éviter les accidents liés aux orages. C'est la deuxième fois en 8 mois que ce principe de précaution est appliqué par la SNCF dans la région. Au-delà de l'Auvergne, 52 départements sont donc concernés par une vigilance orange orage aux canicules. Je ne vais pas tous vous les citer. On va voir ça dans le détail dans une vingtaine de minutes. Mais ce mercredi est la journée la plus chaude de la semaine. Difficile à supporter ici sur le marché d'Aiguilles. Nous sommes près d'Aix-en-Provence.
Il fait très chaud, insupportable. J'ai dépassé la soixantaine et c'est de plus en plus pénible. Malgré la température du matin, il faisait 21 degrés devant chez moi. Comment je lutte? En buvant beaucoup, ça c'est sûr. Et avec un ventilateur, parce que j'ai pas de clim chez moi. J'ouvre jusqu'à jusqu'à 10 heures à peu près. Et là, quand il commence vraiment à faire trop chaud, je ferme les volets, je mets demain mon ventilateur.
Si je sors, je mets un chapeau, je reste à l'ombre, mais je ne prends rien de particulier, ne serait-ce que de boire de l'eau. Pas trop de viande et beaucoup de légumes.
Pour ce qui me concerne, moi j'ai moins faim quand il fait chaud. Moins envie de viande, de choses de ce genre. Plus de fruits, plus de choses crudités ou autres.
On s'habille léger et voilà, après on boit, après on rentre au frais.
Parole de Provençois avec Fabien Ledu, ici Provence. Pour faire pousser les légumes et les fruits que l'on achète sur ce marché des Guilles, il faut de l'eau, Célia Kiré. On vous retrouve ce matin. Le Haut Commissariat au Plan a publié ses prévisions sur la ressource en eau pour 2050, compte tenu du changement climatique. 88% du territoire de métropole va connaître d'ici 25 ans des situations de manque d'eau en été. Quelles sont les régions concernées, les bassins les plus critiques?
Alors d'abord, vous vous souvenez de l'été 2022, les restrictions d'eau, eh bien ce sera la norme en 2050. Et en effet, les bassins du sud-ouest, Adour-Garonne en particulier, ou du sud-est, seront les plus vulnérables. L'équation est impossible car les besoins en eau vont augmenter dans ces régions et les débits des rivières vont diminuer à cause du changement climatique. La consommation d'eau va doubler, voire tripler dans la moitié des bassins versants français, en particulier dans le sud. Si aucune mesure de sobriété n'est mise en place, c'est le scénario 1, on ne change rien. Dans le scénario 2, si on applique correctement les politiques publiques actuelles, la consommation d'eau double aussi dans le sud, notamment. Et dans le scénario 3, dit de rupture, avec des mesures de sobriété, on limite les dégâts, mais les tensions resteront fortes.
Ça veut dire qu'on peut tout de même agir, il y a des marges de manœuvre?
Oui, pour Clément Beaune, haut commissaire au plan, on a 10 ans pour agir. Il faut anticiper, sinon 3/4 des bassins français seront en tension sévère au moins un mois dans l'année en 2050. Les plans d'urgence décidés au dernier moment ne suffiront pas. Si on continue sur le même modèle, les prélèvements d'eau vont augmenter de plus de 50% dans la moitié ouest du territoire à cause de l'irrigation. Le Haut Commissariat prône plutôt un scénario de rupture qui permet de stabiliser, voire de diminuer les prélèvements d'eau. Dans ce cas, 42% des bassins français seront en crise en 2050, contre 90% si on ne fait rien. On peut encore en sauver la moitié. Enfin, anticiper, cela suppose aussi de prendre soin de nos cours d'eau et de nos écosystèmes. On peut encore aider la nature.
Célia qui irait en Corse. Deux nouveaux bateaux visés par des incendies. Trois, dont deux d'une société de promenade en mer qui avait déjà été visée en avril. Ça s'est passé dans la nuit de mars, donc la nuit dernière, sur la commune de Saint-Florent en Haute-Corse. La progression du virus du chikungunya en métropole, déjà 8 cas recensés depuis le début de l'année, nous dit Santé publique France. Dans l'Hérault, dans le Var ou encore dans le Gard, ce sont des cas autochtones. Cela veut dire que la maladie a été attrapée sur place après piqûre de moustique. Elle a refusé de se soigner et elle en est morte. Au Royaume-Uni, la BBC vient de dévoiler une large enquête sur les conséquences de la désinformation en ligne en matière de santé. Et la chaîne britannique nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a refusé de soigner son cancer et qui est décédée. Elle a été influencée par sa mère, une ex-infirmière, anti-vax, adepte des médecines traditionnelles, devenue influenceuse, Emeline Vin.
Paloma Chimerani a 23 ans. Quand les médecins lui diagnostiquent une forme de cancer du sang, ils lui prédisent 80% de chances de rémission avec une chimiothérapie. Mais la diplômée de la prestigieuse université de Cambridge refuse les traitements. Elle se tourne vers des médecines alternatives, en l'occurrence un régime végétal à base de jus et de café. Elle décède 7 mois plus tard. Aujourd'hui, ses deux frères accusent leur mère, Kate Chimerani, d'avoir influencé la jeune femme. Ils décrivent une dynamique familiale toxique, dénoncent le complotisme de leur génitrice, par exemple l'interdiction enfant de porter de la crème solaire car elle serait cancérigène. Kate Chimerani a d'ailleurs été radiée de l'ordre infirmier en raison de ses croyances. Un an après sa mort, les deux frères de Paloma espèrent aujourd'hui enrayer l'influence de leur mère car Kate Chimerani fait partie de ces influenceurs aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sébastien et Gabriel Chimerani estiment que sans une meilleure modération des fake news sur leur plateforme, les patrons des réseaux sociaux continueront de mettre des vies en danger. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Trump est-il de bonne humeur? La question peut paraître lunaire, mais voilà où en sont les représentants des pays qui composent l'Alliance Atlantique à l'heure d'entamer un sommet de l'OTAN dont dépend la sécurité de leurs millions de concitoyens. Eh bien, manifestement, le président américain est à son aise à La Haye, aux Pays-Bas, à peine contrarié par un rapport de ses services, rapport qui a fuité dans la presse et qui remet en cause l'efficacité des frappes américaines sur l'Iran. On va y venir dans un instant. D'abord, D'abord, voyons comment se déroule ce sommet avec notre envoyé spécial aux Pays-Bas. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marie, Donald Trump est apparu conciliant ce matin sur la photo.
Oui, les 32 pays alliés qui posent ensemble sur l'estrade. Donald Trump, plein centre, visage fermé, enthousiasme modéré. Qu'importe, au moins le président américain figure sur la photo. Et avant la session plénière, pas d'esclandre, Donald Trump a même gratifié ses alliés de quelques mots d'encouragement pour l'augmentation massive de leurs dépenses de défense et de sécurité. C'est une grande victoire pour tout le monde, je pense. On va égaliser nos dépenses très vite. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de défense. On a une très bonne relation. Un ton conciliant pour l'instant, alors que ses alliés sont ici suspendus à chacun de ses mots et redoutent une sortie qui viendrait torpiller le sommet quand l'objectif est d'afficher précisément un visage uni face à la Russie. Alors, pour amadouer le président américain, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, n'a reculé ces derniers jours devant aucune flatterie. Ce matin, encore en ouverture de la session plénière.
President Trump, dear Donald.
Cher Donald, vous avez rendu ce changement possible. Votre leadership a déjà eu pour résultat d'augmenter de 1 000 milliards de dollars les dépenses des alliés européens depuis 2016.
Et la session plénière est toujours en cours, sortie et publication du communiqué final imminente.
Alors Marie, on sait que Trump a passé beaucoup de temps ces derniers jours à parler de l'Iran. Il a même décidé de bombarder le pays d'ailleurs. Est-ce que le sort de l'Ukraine l'intéresse toujours ?
Eh bien, en tout cas, c'est ce que redoutent les Européens, voir l'Ukraine être éclipsée par le conflit entre Israël et l'Iran. C'est l'un des enjeux du communiqué final. Comment la menace russe sera-t-elle qualifiée ? L'Ukraine sera-t-elle même mentionnée ? Volodymyr Zelensky est présent ici à La Haye, ce n'était pas acquis. Et il a obtenu une rencontre avec Donald Trump, qui doit avoir lieu dans quelques minutes après la session de travail.
Marie Mollet en direct avec les moyens techniques de Florent Layani. Merci à tous les deux. Pendant ce temps, le cessez-le-feu imposé par Trump à l'Iran et à Israël, ce cessez-le-feu tient. Mais on s'interroge donc sur l'utilité de ces frappes israéliennes et américaines pendant 12 jours, puisque le régime en place à Téhéran n'est pas tombé. Et puisque selon un rapport préliminaire confidentiel du renseignement américain qui a fuité dans la presse, le programme nucléaire iranien n'aurait en fait été retardé que de quelques mois. Bonjour Valérie Creva.
Bonjour.
Ce matin, Américains et Israéliens ont fermement démenti.
Oui, ils maintiennent leur version. Le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs années, ce qui contredit le rapport préliminaire de 5 pages des renseignements américains que le New York Times et CNN se sont procurés. Il s'agit d'une première évaluation, d'autres devraient suivre au fur et à mesure que de nouvelles informations seront recueillies. Alors selon ce document classé confidentiel, les bombardements américains sur Fordo, Natanz et Ispahan ont provoqué des dommages allant de modérés à graves. Les frappes ont essentiellement bloqué les entrées de deux des installations, ils ne précisent pas lesquelles, et si elles ont été endommagées, les frappes n'ont pas provoqué d'effondrement de leurs bâtiments souterrains, ce qui sous-entend que les bombardements n'auraient pas détruit complètement les centrifugeuses ainsi que les stocks d'uranium enrichi, on parle de plus de 400 kilos, qui ont vraisemblablement été déplacés par les Iraniens vers des lieux secrets avant les bombardements. Hier, un conseiller du guide suprême, Ali Khamenei, s'était empressé de dire que l'Iran possédait toujours des stocks d'uranium enrichi et que la partie n'était pas terminée.
Merci Valérie Creva pour ces explications. J'ajoute qu'Emmanuel Macron recevra ce soir le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Argentin Raphaël Grossi, à l'Élysée pour faire le point sur l'état du programme nucléaire iranien. Le président de la République qui ne devrait pas avoir à trouver un nouveau Premier ministre ces prochaines semaines. Après l'échec du conclave sur les retraites, hier, les socialistes ont annoncé le dépôt d'une motion de censure. La gauche votera cette motion, mais pas le Rassemblement national, ce qui donc ne permettra pas l'adoption de ce texte. Le député RN du Nord, Sébastien Chenu, l'a annoncé ce matin sur Inter.
Le rendez-vous de la censure, c'est à l'automne. C'est au moment du budget. François Bayrou, son tour viendra. La censure, qu'est-ce que ça ? C'est pas une fin en soi. Nous, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que ça apporte aux Français ? La dernière fois, lorsqu'on a censuré Michel Barnier, on l'a fait dans un esprit vraiment responsable, parce qu'on s'est dit, ça apporte aux Français des choses dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on a empêché la désindexation des retraites.
La dernière fois, Sébastien Chenu, vous aviez dit, on ne censurera pas Michel Barnier. Vous l'avez fait, finalement. Pourquoi on devrait vous croire cette fois-ci ?
Parce qu'une censure aujourd'hui, ça n'abrogerait pas la réforme des retraites. C'est ça le problème, c'est que si nous censurons dans les jours qui viennent François Bayrou, la réforme des retraites, elle demeure. Et qu'en fait, c'est, j'allais dire, un coup pour rien.
Le député Rassemblement National Sébastien Chenu au micro ce matin de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Cette décision de justice va-t-elle changer les choses ? Hier, pour la première fois, l'État a été condamné en justice par la Cour administrative d'appel de Nantes à indemniser la famille d'un jogger décédé en 2016 après un jogging au milieu d'algues vertes. La responsabilité de l'État est donc engagée dans ce décès et c'est l'absence d'action de l'État qui a été stigmatisé et condamné par la justice. Mais justement, que fait l'État aujourd'hui encore pour lutter contre la prolifération de ces algues vertes ? Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Il existe en fait département par département des plans algues vertes. Comment ça fonctionne ?
Oui, alors ce sont des programmes collectifs qui impliquent les chambres d'agriculture, la préfecture et les agriculteurs. L'objectif étant de les accompagner vers une transition agroécologique, faire diminuer les taux de nitrates. Vous savez, ces polluants d'origine agricole qui vont dans les cours d'eau et fertilise des algues vertes dans 8 baies bretonnes. Il y a 3 plans de ce genre sont entrés en vigueur depuis 2011, des plans contre la prolifération des algues vertes. Parmi les mesures qui sont plutôt des mesures incitatives, des conseils, du soutien financier aux pratiques vertueuses comme le pâturage, l'installation de haies. Alors, est-ce que ces plans fonctionnent ? Eh bien oui, répond le représentant de la FDSEA des Côtes d'Armor, Philippe Chardel.
Oui, il y a des effets positifs et des résultats indéniables. Il y a une dizaine d'années, le débat était que la teneur en nitrate dans les cours d'eau, si je prends ce critère-là, descend en dessous de 50 mg. Aujourd'hui, on est à 30 mg. Je pense que ça montre quand même globalement l'engagement de la profession dans ce plan algues vertes. Le temps aussi est un élément.
Mais pour le porte-parole de la Fédération Sauvegarde du Trégor, Yves-Marie Lelay, il faudrait une présence maximale moyenne de 10 mg de nitrate par litre d'eau. Il s'appuie sur des données de travaux scientifiques.
La réalité est là, vous avez des algues vertes dans la baie de Lannion et elles pourrissent sur les places, et vous en avez dans la baie de Saint-Brieuc, et vous en avez dans la baie de Douarnenez. La Bretagne, c'est 60% de la production de cochons française. La Bretagne, c'est la poubelle de lisier de la France.
Et tant que le système agricole breton ne sera pas revu, répète les associations environnementales, le combat contre les algues vertes échouera.
Mariam El Kurdi, à Lyon, les supporters de l'OL sont encore sonnés au lendemain de l'annonce de la relégation de leur club en Ligue 2, sanction confirmée hier soir par la DNCG, le gendarme financier du football français, des supporters qui en veulent au propriétaire américain du club John Textor. Alors, depuis quelques heures, des banderoles hostiles à ce propriétaire fleurissent un peu partout en ville. Reportage Christophe Vincent.
Sur la rocade est, près du stade, devant la basilique de Fourvière, la même banderole, Textor dehors. Cette nuit, le slogan hostile a été peint sur la vitrine de la boutique en centre-ville. Karim, supporter depuis 20 ans, est en colère.
C'est catastrophique aussi, non ? Parce qu'on n'est pas Saint-Etienne quand même. On ne pensait pas que ça allait arriver vraiment, mais ça fait mal au cœur, on va dire. On nous a foutu dans la merde, l'Américain. On voit Bordeaux, c'était pareil, hein, mais je pense que Lyon, on peut pas. Hein. C'est une grosse ville, Lyon, et on peut pas être en Ligue 2. On est KO. Acheter des joueurs à 30 millions, 40 millions pour rien. Ils ont même pas joué dans le club. J'espère qu'ils vont faire appel et que ça va passer.
Textor dehors, fallait y penser avant, soupire un supporter. Plus loin, Romain semble sonner, il ne réalise pas.
Quand j'ai vu l'OL en Ligue 2, j'ai dit mais non, c'est pas possible, c'est une blague quoi. Donc en fait non, c'est réel. J'étais surpris comme quasiment tout le monde. Je sais pas si j'en veux aux dirigeants lyonnais, mais c'est triste de voir un club comme ça aller en Ligue 2 quoi. Mais j'y crois pas. J'ai plus confiance en John Textor malheureusement, mais pour le moment on est en Ligue 2. C'est triste de voir à l'OL comme ça. En plus on vient de perdre Bernard Lacombe, donc la semaine elle est horrible.
Bernard Lacombe enterré cet après-midi. On lui aura au moins épargné ça, ajoute un vieux supporter.
L'ancien joueur du club Bernard Lacombe, ancien directeur sportif et bras droit de Jean-Michel Aulas. Effectivement, merci Christophe Vincent pour ce reportage à Lyon. 13h23, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Avec Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence votre sélection de la semaine avec 13 jours, 13 nuits. Thriller français inspiré de faits réels.
Oui, puisque le réalisateur Martin Bourboulon retrace ici le siège de l'ambassade de France par les talibans. C'était à Kaboul en 2021.
On prend tous les disques durs, c'est clair ? On broie et on brûle tout !
Cette voix, c'est celle de Roche Dizem, alias Mohamed Bida, le commandant de police en charge de la sécurité de l'ambassade de France en Afghanistan. À quelques jours d'une retraite bien méritée, il doit réaliser la mission la plus périlleuse de sa carrière, évacuer le personnel diplomatique, mais aussi plusieurs centaines d'Afghans qui se sont réfugiés dans le bâtiment encerclé par des talibans pas forcément disposés à négocier. À la fois film d'action et biopic évoquant une actualité récente, 13 jours, 13 nuits s'avèrent très efficace et même sacrément haletant.
Vous avez été moins convaincu par le grand déplacement de et avec Jean-Pascal Zadi.
La première expédition spatiale africaine de l'histoire, la Black Star 9.
C'est de la merde, vous n'allez pas y arriver, c'est perdu d'avance.
Belle idée de départ que celle de ce quatrième long-métrage de l'impayable JP Zadi. Pour la première fois, une mission 100% africaine est constituée pour explorer une nouvelle planète qui permettrait d'accueillir la population du continent quand la Terre ne sera plus habitable. Un scénario qui fait donc des clins d'œil bienvenus à l'un des courants artistiques les plus enthousiasmants du siècle passé, l'afrofuturisme. Mais le grand déplacement est aussi et peut-être surtout une comédie qui ne tient malheureusement pas toutes ses promesses. Les gags sont trop rares et surtout trop inégaux pour faire de ce film un digne successeur de Tout Simplement Noir, la précédente comédie signée Zadi, qui convoque d'ailleurs ici la même bande de comédiens, de Farid à Claudia Tagbo, en passant par Éric Judor et Fadili Camara.
En salle aussi, Ange de Tony Gatliff.
Le cinéaste septuagénaire aux origines kabyles et gitanes continue de creuser le sillon qui a fait sa renommée en dressant le portrait d'un homme nomade et mélomane interprété par Arthur Ashe.
Tu cherches quoi ?
Le contretemps. Dans la musique gitane, le contretemps, c'est comme quelqu'un qui se lève quand tout le monde reste à genoux.
Joli personnage que celui d'Ange, ce vieux briscard mystérieux qui fuit au volant de son camion, ses amours et ses amis pour s'éviter de trop souffrir. Malgré quelques longueurs et quelques dialogues un peu mièvres, ce 21e long métrage de Tony Gatliff tient la route, c'est le cas de le dire, et nous offre de très beaux moments de musique comme cette scène finale façon feu d'artifice sonore, avec l'apparition d'un Mathieu Amalric plus lunaire que jamais.
Tony Gatliff qui était notre invité hier dans C'est une chanson et c'est à réécouter évidemment. Quoi d'autre à l'affiche en ce mercredi, Alexis ?
Amélie et la métaphysique des tubes, un film d'animation inspiré de l'enfance japonaise d'Amélie Nothomb. Once Upon a Time in Gaza, un western urbain et satirique réalisé par les frères Nasser, et F1 le film qui, comme son nom l'indique, est un film qui parle de Formule 1.
Sur la Formule 1, voilà, c'est
avec
ça.
Avec Brad Pitt en vieux pilote qui rempile.
Merci Alexis Demeyer, je vous dis à mercredi prochain. J'en profite pour vous signaler la disparition d'une grande actrice italienne mais qui adorait la France, Léa Massari, à l'affiche de l'Aventura d'Antonioni ou encore du Souffle au cœur de Louis Malle, des choses de la vie de Claude Sauté. Elle avait 91 ans. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, un optimiste avec nous. Ça va nous faire du bien. Le politologue Eddy Fougier qui déplore dans un essai le pessimisme ambiant. Il a des recettes. Vous êtes d'accord ou pas avec lui ? 01 45 24 7000 pour vos questions, vos témoignages aussi si vous êtes par exemple des optimistes forcenés. 13h45, nous suivons notre famille qui accueille un chien guide d'aveugle et elle l'amène aujourd'hui au travail. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous vous interrogez sur Jean-Luc Mélenchon.
Oui, un an après la naissance du nouveau Front populaire qui, on s'en souvient, barra la route au Rassemblement national au lendemain de la dissolution de l'Assemblée, nous avons cherché à comprendre auprès de l'intéressé, je dirais de la bouche du cheval, ce qui avait provoqué une telle dégradation de son image.
Très longue interview dans le 1 hebdo de la semaine, avec des éclairages et des critiques en complément, vous allez nous en parler. Avec vous Frédéric, une chanteuse.
Il s'agit de Solane, qui il y a quelques mois a sorti son premier album « Si on sombre, ce sera beau ». Elle est à l'affiche de nombreux festival cet été. Et avec elle, c'est la voix de Leonard Cohen que nous écouterons, un chanteur qui lui fait le même effet qu'un câlin.
Carrément.
Mais oui.
On va essayer, on va tester
mais
ensemble.
Câlinons-nous.
À tout à l'heure.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Oh, mais comment tu fais pour avoir l'air en pleine forme dès le matin comme ça?
Ben, je dors mieux. Avec mes volets roulants Velux, je ne suis plus embêté par la lumière extérieure et il fait tellement moins chaud dans ma chambre.
Sérieux?
Mais oui, fonce! Il s'installe en moins d'une heure et en ce moment, tu as une chance par jour de te le faire rembourser à 100%.
Cet été, échapper à la chaleur et gagner en confort avec les volets roulants Velux. Modalité complète sur velux.fr.
France Inter, partenaire de Jazz à Vienne, au Théâtre Antique du 26 juin au 11 juillet. Ben Harper, Didi Bridgewater, Michael Kiwanuka, Kamasi Washington, Kassav, The Sacred Souls, Avishai Cohen, Diane Reeves, Reggie Snow, Double et bien d'autres. 16 jours de musique, 139 concerts sur 18 lieux de programmation. Jazz à Vienne, du 26 juin au 11 juillet. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
On a quasiment toute la France en alerte orange, hein. Attention aux fortes chaleurs et aux orages.
Effectivement, la vague de chaleur se poursuit avec une nouvelle hausse des températures. Le seuil des très fortes chaleurs, c'est-à-dire de plus de 35 degrés, sera régulièrement dépassé en Auvergne-Rhône-Alpes, au nord du Midi-Toulousain et plus localement entre l'Alsace, le sud parisien, la Provence et le Roussillon. Des pointes à plus de 39 degrés sont même possibles. On rappelle que l'Isère et le Rhône sont toujours placés en vigilance orange canicule. Sur le reste du pays, il fera 30 à 34 degrés. Pour trouver moins de 30 degrés, direction le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne ou encore près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, voire sur certaines plages de la Côte d'Azur. Il fera d'ailleurs 29 degrés à Lille, Vannes et à Nice, mais 38 degrés à Lyon, Bourges et Auxerre, ou encore 34 degrés à Strasbourg et Paris. Cette chaleur est globalement largement ensoleillée. En revanche, à partir du milieu d'après-midi, des averses orageuses vont bourgeonner sur le massif central, ainsi que sur les régions de l'Ouest, entre l'Aquitaine, la Bretagne et la Basse-Normandie. Et progressivement, ces orages vont devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus forts en se déplaçant vers le nord. Des orages violents risquent d'éclater avec de la grêle, mais aussi de puissantes rafales de vent à plus de 100-120 km par heure. Ces pulsations orageuses balayeront ensuite le nord et le nord-est ce soir avant de s'évacuer durant la nuit. 50 départements ont été placés en vigilance orange pour ces orages violents.
Merci Sébastien Léas. Soyez donc prudents, vous qui nous écoutez dans ces départements, on le rappelle. Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. De 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Eddy Fougier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous enseignez à Sciences Po, Aix-en-Provence, à l'Audiencia Business School de Nantes ou encore à l'Université Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est pour la partie enseignement, mais vous avez aussi une partie optimiste. Vous avez fondé l'Observatoire du Positif et vous venez de publier un petit livre qui s'intitule « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» avec ce sous-titre « Le fléau du pessimisme pour la démocratie ». C'est aux éditions de l'Aube et c'est une affaire extrêmement sérieuse qui peut avoir des conséquences sur nos vies et sur la marche du monde. Vous allez nous expliquer tout cela, on a déjà beaucoup d'appels. 01 45 24 7000 pour être avec nous, vous passez également via l'application Radio France. Avant un bain d'optimisme avec vous, Eddy Fougier, une petite piqûre de pessimisme.
La transition politique à nouveau fragilisée en Syrie. Un attentat frappe une église chrétienne, au moins 22 morts. Nous serons à Damas.
Des mariés pris pour cible, la mariée décédée ainsi que l'un de ses agresseurs, deux autres personnes blessées. C'était dimanche matin à l'issue de la fête à Goult, un petit village du Luberon.
Déflagration diplomatique après une rencontre très tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Et justement sur le front, la pression de l'armée russe continue de se faire sentir. Les troupes de Moscou grignotent jour après jour le territoire ukrainien.
Le bilan provisoire du crash du Boeing 787 d'Air India monte à 279 morts, passagers, équipage et victimes tués au sol par la chute de l'avion.
Petit extrait de l'antenne d'Inter ces derniers jours, ces derniers mois. Petit extrait, on ne parle pas que de ça sur l'antenne de France Inter évidemment. Mais Eddy Fougier, quand on voit le monde, difficile d'être optimiste.
Alors, ce livre ne répond pas à la question « Faut-il être optimiste ?» et « Est-ce que le monde va de mieux en mieux ou de plus en plus mal ?» Il essaie de répondre, et il ne répond pas non plus à la question, parce qu'elle viendra peut-être au cours de cette interview, « Pourquoi les Français sont-ils aussi pessimistes ?» J'essaie de réfléchir à la raison pour laquelle on tend à penser que le monde va de plus en plus mal, et d'en tirer les conclusions, notamment d'un point de vue politique, parce que le pessimisme, et là je parle en l'occurrence du pessimisme collectif, a bien évidemment des conséquences politiques. Et l'un des démarrages de cette réflexion, ça a été effectivement l'élection de Donald Trump, ouais. qui s'est basée en grande partie sur un discours particulièrement pessimiste, décliniste, effondriste, et qui a eu une influence sur ses électeurs, et qui, ces électeurs, ont une vision largement erronée de la situation aux États-Unis.
C'est-à-dire que vous diriez que d'abord Trump a commencé à décrire le monde et surtout l'Amérique de manière extrêmement noire, décliniste, et une fois qu'il a réussi à faire rentrer cette idée dans la tête des Américains, il est arrivé et il a récolté finalement la victoire.
En grande partie. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple depuis 2020, la perception que les Américains ont, en particulier les Républicains, de la situation économique. La situation économique aux États-Unis n'était pas dramatique, indépendamment des opinions qu'on peut avoir sur Biden, Harris ou Trump. En revanche, les Américains, et en particulier les Républicains, voyaient la situation comme si c'était au cœur de la grande récession de 2009. Il y a eu, et beaucoup d'experts se sont posés la question, pourquoi il y a un tel décalage entre la perception que les Américains ont de leur situation économique et la réalité. Et il y a une enquête qui a été faite par Ipsos au mois d'octobre 2024 où il y a un certain nombre d'affirmations qui sont données aux Américains sur la situation de l'inflation, sur la criminalité, sur l'immigration. Et systématiquement, les électeurs de Trump se trompent, mais se trompent largement sur l'évaluation de la situation. Donc moi, l'interrogation que j'ai eue, c'est effectivement de me dire, non seulement le pessimisme a été instrumentalisé par Trump, mais en plus, ça a donné une vision totalement erronée de la réalité. D'où cette notion que j'introduis dans le livre de pessimisme sans doute excessif.
Alors, il y a un pessimisme excessif, mais il y a aussi une autre notion dont vous parlez, c'est le pessimisme légitime. La France qui croule sous la dette, le réchauffement climatique, l'instabilité politique, la désinformation, tout ça sont de mauvaises nouvelles qui peuvent nous inciter à penser que le monde va de plus en plus mal.
Bien évidemment, mon propos n'est pas de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes ou qu'il faut regarder le verre à moitié plein, je n'aime pas trop cette expression. Je pense qu'il faut avoir une vision très lucide sur l'état du monde, mais je remets en cause l'idée que le réalisme et la lucidité sont nécessairement l'équivalent du pessimisme. Être lucide et regarder la réalité de façon complexe, c'est effectivement de voir à quel point la situation est grave. On le voit en ce moment, il y a eu le bulletin météo sur la situation climatique. Mmh. Mais la conclusion qu'on doit en tirer, c'est pas de se dire « c'est foutu, il n'y a plus rien à faire », ou on va donner les clés à tel ou tel sauveur populiste qui va mettre en œuvre son programme, mais ça doit nous inciter à essayer de trouver des solutions. Et moi, le modèle, ça peut vous paraître étrange, mais le modèle que j'ai en la matière, c'est par exemple le discours de Churchill en 40. Parce que le fameux discours...
Au fond de l'abîme.
Le discours juste avant que les Allemands n'interviennent sur le sol britannique, il a ce fameux discours sur la sueur, les larmes, etc.
« We'll never surrender ».
Exactement. «
Nous ne nous rendrons jamais ».
Et regardez la fin du discours où il essaie de faire passer une sorte d'espoir en disant « on a un seul but, un seul objectif, c'est la victoire et on va gagner ». On va gagner. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. C'est-à-dire partir d'une vision, effectivement, sur la situation qui est particulièrement... Enfin, je ne vais pas... Il suffit d'écouter, encore une fois, ce qui se passe un peu partout en ce moment. Mais de se dire, de ne pas en tirer la conclusion que c'est foutu, parce que là, effectivement, c'est un boulevard pour les populistes.
Et vous expliquez très bien dans le livre à quel point les paroles... optimistes ou volontaristes sont discrédités. C'est-à-dire que des gens qui tiennent ce discours passent pour des naïfs, au fond.
Oui, je dirais, à minima, ce sont des naïfs. On est dans le pays de Candide. La vision par excellence de la naïveté. Et à maxima, ce sont des individus hors sol, privilégiés, qui ne se rendent pas compte de la dure réalité et qui vont même jusqu'à défendre un système. Et qui sont dans des propos rassuristes. Donc, effectivement, l'optimisme, la positivité n'a pas bonne presse. Et je rajouterai que qui a ce discours optimiste dans l'espace public ? Ce sont les grandes marques, les gouvernements, les institutions internationales, donc des experts, et donc autant de groupes, d'organisations ou d'individus qui sont particulièrement vu avec scepticisme, à minima, ou critique en grande partie.
Pierre nous appelle de Haute-Vienne. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voudrais juste faire un témoignage, c'est de dire que je suis profondément pessimiste à long terme, quand je vois tout ce que vient de dire votre invité sur l'évolution de la planète, sur le social, sur les catastrophes, mais je fais au jour le jour, je fais tout comme si j'étais optimiste. Je suis impliqué dans de l'éducation populaire dans ma commune, je fais énormément de choses, je m'occupe de mes petits-enfants. Voilà, j'essaye de combiner les deux. Est-ce que votre invité pense que c'est possible de combiner les deux à long terme, un vrai pessimisme de fond et à court
et un
terme,
optimisme du
un
quotidien.
Optimisme de la vie quotidienne. Ouais.
Merci infiniment Pierre pour votre appel, Eddy Fougier.
Moi j'aime bien, alors, merci pour ce témoignage, moi j'aime bien la vision de Philippe Guébillier, qui est le principal spécialiste en France de l'optimisme, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut combiner ce qu'il appelle un optimisme de but et un pessimisme de chemin. J'aime beaucoup cette idée-là. Alors c'est un peu l'inverse de ce que dit monsieur, mais c'est-à-dire que l'idée c'est que se dire qu'il y a une solution et qu'on va y arriver, mais que ça ne sera pas facile. Mais pour cela, effectivement, il faut se dire que c'est possible, et l'une des clés, et le monsieur vient de le dire, c'est d'agir au quotidien là où c'est possible. Moi, c'est ce que j'ai fait de façon très, très... vous parliez de l'Observatoire du positif. C'est arrivé comment ? En plein confinement, je me
ça
suis dit...
Ça consiste en quoi, l'Observatoire du positif ?
Ce sont des analyses, et j'essaie chaque jour, depuis 4 ans maintenant, de mettre une information positive, alors sur un réseau social qui n'est pas nécessairement le plus positif, qui est X, mais donc ça... Tous les jours, je mets une information positive, mais une information assez, assez lourde sur les progrès médicaux, sur des percées scientifiques, sur des évolutions en matière d'accès à l'éducation, à la lutte contre la pauvreté. Et donc, je me suis dit, en plein confinement, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contrecarrer cette atmosphère absolument ultra-anxiogène, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, à l'époque, vous vous en souvenez, avait conseillé, recommandé à la population de ne pas être trop exposée à ces informations qui pouvaient effectivement nuire à la santé mentale des individus. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaie de publier, j'essaie d'analyser les choses de façon un peu plus positive.
Patrick nous appelle de Louviers. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi je trouve très important de regarder dans le temps. Il y a 2000 ans, il y avait beaucoup d'esclavage. Les gens étaient achetés et vendus. Ça veut dire ça, l'esclavage. Ouais. Achetés et vendus. Et c'était normal dans l'esprit de la plupart des gens. C'était normal. 2000 ans après, il y en a beaucoup moins, presque plus, on va dire. Et surtout, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il y a un changement dans l'esprit des gens. Jamais l'un d'entre vous autour de la table n'a parlé d'acheter ou entendu parler d'acheter ou de vendre quelqu'un. Mmh. Deuxième point que vous pouvez prendre, il y a 100 ans, les femmes n'auraient jamais imaginé voter, être au gouvernement. Et on voit des évolutions. Moi, je pense qu'on va globalement vers plus de justice parce qu'il y a plus de non-violence dans la gestion des conflits, et tout en restant réaliste sur le chemin qui reste à faire. Mmh. Alors, j'ai une question...
Allez-y.
Qui était là, je te regarde de temps en temps à l'occasion des infos du midi, notamment sur TF1, et elles sont d'une tonalité beaucoup plus positive que celle du soir. C'est pas le cas sur France Inter. Voilà, et je voudrais savoir pourquoi. J'ai ma petite idée, mais je pense que c'est une question importante. Pourquoi est-ce que le midi on donne de l'info beaucoup plus positive en quantité que le soir?
Merci Patrick, on fait attention aux informations qu'on donne et à l'équilibre qui est donné dans ce 13-14, mais puisque vous êtes un auditeur attentif, vous l'avez évidemment remarqué. Merci pour cette question. Bon, deux choses, Patrick regarde le long terme, peut-être réaction là-dessus Eddy Fougier, et puis le traitement, journalistique. Est-ce que nous aussi, on a notre part de responsabilité dans ce pessimisme?
Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick, c'est ça moi, je ne suis pas du tout un adepte du « c'était mieux avant ». Il y a des situations, des évolutions qui se sont dégradées, mais quand on regarde effectivement un certain nombre d'avancées, quelque chose dont on n'a pas nécessairement... on ne se réveille pas le matin en se disant « c'est génial », mais regardez l'espérance de vie. Regardez la mortalité des enfants dans le monde. Jusqu'à il y a quelques décennies, la moitié des enfants qui naissaient mouraient avant l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, c'est très très faible, et très très faible notamment dans les pays développés, mais ça devient de plus en plus faible, y compris en Afrique. Et la pauvreté dans le monde aujourd'hui, c'est moins de 10% de la pauvreté extrême. Il y a plus d'un milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté.
Notamment en Chine, ce qu'on dit rarement dans le décollage économique évidemment. Chinois. Sur la responsabilité des médias, Eddie Fougé, il nous reste 2 minutes. Est-ce que le public est davantage attiré par des informations alarmistes ou pessimistes que par des informations optimistes ? Qu'on sait ça ?
Je parle des médias dans le livre. Moi, je ne veux pas nécessairement jeter la pierre sur les médias. Il y a deux aspects. Beaucoup de médias, y compris France Inter, font des efforts, notamment ce qu'on appelle le journalisme de solution, essayer de ne pas s'en tenir qu'au constat, mais aussi voir les solutions, du journalisme constructif. Donc, dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias, c'est un moyen de se reconnecter au public. Et on voit aussi, et c'est peut-être la différence entre le 13h et le 20h TF1, que l'info locale, la PQR, la presse quotidienne régionale, a une tonalité plus positive, en tout cas moins négative, parce qu'on ne parle pas de l'actualité internationale ou politique nationale. Et je dirais, on est tous responsables de ça aussi. Les études ont montré que c'est pas uniquement les médias qui mettre l'accent sur ce qui relève de la rupture de la normalité, le crash de l'avion qui était mentionné tout à l'heure, c'est aussi le public qui attend ça.
C'est ça. Est-ce que ces informations-là sont plus virales que d'autres, par exemple, sur les réseaux sociaux?
Oui,
Elles fonctionnent mieux.
C'est évident. On sait que les informations qui sont erronées ou les informations qui sont outrancières vont susciter beaucoup plus d'engagement ou être beaucoup plus virales. Et on sait très bien aussi que tout se passe dans notre cerveau et que notre cerveau, pour des raisons d'évolution de l'espèce humaine, pour des raisons de sélection naturelle, et va irrémédiablement nous inciter à être attirés par ce qui est négatif.
Il faut donc lutter contre notre penchant naturel.
C'est ça la difficulté.
c'est un peu l'objectif. Merci Eddie Fougé d'avoir été avec nous.
Merci.
Lecture extrêmement stimulante. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? Le fléau du pessimisme pour la démocratie. C'est aux éditions de l'Aube, 13h46 sur Inter. Famille d'accueil de chiens guides d'aveugles, c'est notre feuilleton. Toute cette semaine, nous suivons une famille de Seine-Saint-Denis qui, pendant près d'un an, vit avec un labrador. Tout cela pour le former avant qu'il ne rejoigne l'école de chiens guides de Paris, avant de retrouver un maître ou une maîtresse. Le principe, c'est de tout faire avec ce jeune chien. Les transports, les sorties, le boulot. Et Sarah, qui travaille à la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, se rend donc aujourd'hui au travail avec Van Gogh.
Salut Jean-Seb.
Bonjour.
Ah bah voilà, Van Gogh est déjà en bonne compagnie. Il a ses chouchous, faut savoir, ce chien. Il y a Jean-Sébastien et Atem qui ont ses préférences. Il sait dans quel bureau il sera bien accueilli.
T'as pas le droit de faire ça. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien Bétrancourt et je suis chargé de mission sur toute la partie running. Pour faire des pauses, c'est très bien parce qu'on peut aller jouer avec lui, souvent. Mais c'est incroyable, ça met une ambiance complètement différente au travail en fait. Non, t'as pas le droit. Et en plus, on se fait gronder par sa maîtresse dès qu'on est un peu trop laxiste. Ça remet les choses en place aussi.
Atem, t'es dispo une minute ?
Oui. Donc, je m'appelle Atem Benayed, je suis chef de projet compétition à la Ligue. Bon, en fait, Van Gogh, c'est un petit peu la dose de mignonnerie à la Ligue. Bon, c'est surtout Sarah qu'on a la responsabilité, c'est elle qui s'en occupe au quotidien, mais c'est vrai que des fois aussi, elle peut être prise sur une réunion, et dans ce cas-là, il y a un système d'entraide, parce que forcément, le chien, des fois, il a besoin de sortir, puis il le fait savoir. Aussi un petit peu l'occuper, parce que c'est vrai que le temps au bureau, ça peut être longué, donc on essaie d'avoir des petits temps de jeu avec lui. Ouais, je peux dire que grâce à lui, je refais un peu d'exercice physique, parce que des fois, on se fait la course. Hein ? On va faire un petit sprint ? Allez, t'es prêt ?
T'inquiète,
ouais. 1, 2, hop ! Mais voilà, ça permet de lui de le distraire un peu, puis nous d'avoir un tout petit temps de pause avant de pouvoir se reconcentrer sur notre travail derrière.
Allez, hop là.
Allez. Hop.
Ah, on va aller où ?
Tous les collègues étaient partants pour l'arrivée de Van Gogh, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, on a quand même un collègue qui s'appelle Cédric et qui est un peu moins motivé que les autres par son arrivée.
Non, c'est juste que comme c'est pas mon chien, j'ai peur de faire des bêtises et puis c'est un peu de stress, un peu de peur, on va dire. Ça rajoute un neuvième collègue, parce qu'on est huit. Donc du coup, c'est une autre... faut penser, il y a Van Gogh, donc faire attention à comment on se comporte avec le chien. Voilà.
Allez, viens, on va prendre la petite bavale. Allez, tu vas la chercher. Hop là!
Ah, mais attends, il y a mon collègue Romain, on l'oublie toujours, il est dans un placard.
Alors, c'est mon collègue le plus apprécié de l'équipe. Déjà, il vient me voir, jusque dans mon placard. Et puis, il apporte toujours un peu de chaleur et de joie. Une envie de se retrouver sur d'autres sujets que le travail, en fait.
Allez, viens!
Ah oui, vas-y, mordille-moi la main, hein? Faut que tu me manges pas de mes fils d'ordinateur, ça ira.
Je suis Arnaud Flancard, je suis le président de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme. Il y a une autre ambiance, ça fait un lien entre les salariés, ça met un peu de détente dans les réunions. Quand il peut y avoir des moments d'un peu plus forte tension, bah finalement il est là, il passe entre les jambes et ça détend l'atmosphère. Donc je trouve que ça a un vrai impact positif sur le climat au sein de l'équipe. Quand j'ai compris qu'il était là que pour quelques mois, on s'est dit qu'on aurait tous une grande tristesse et probablement quelques larmes à son départ. Mais en attendant, on en profite à fond.
Troisième épisode de ce feuilleton signé Simon Le Baron.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous avez fait le choix cette semaine d'interroger Jean-Luc Mélenchon. Pour quelle raison ?
Eh oui, Jérôme, nous souhaitions retrouver le leader de la France insoumise 8 ans après qu'il avait théorisé dans nos colonnes l'émergence de son mouvement créé en 2016 et qu'il décrivait comme un mouvement politique singulier, ni vertical, ni horizontal, mais selon ses propres termes, gazeux, dont le but, disait-il, n'était pas d'être démocratique, mais collectif, inclusif et non clivant. S'il avait déjà obtenu 11% des suffrages en 2012, sous les couleurs du Front de Gauche, on se souvient que ses deux autres candidatures à l'élection présidentielle le portèrent sous les couleurs de LFI à 19,6% en 2017, puis à près de 22% en 2022. Des résultats qui illustraient la vocation de ce mouvement, servir la dynamique présidentielle de son leader. Méluche, comme l'appellent ses amis, était devenu l'homme fort de la gauche. Et il y a bientôt un an, le nouveau Front populaire, créé en toute hâte après la dissolution, l'avait emporté, déjouant tous les sondages et les craintes de voir triompher le Rassemblement national. Ce qui nous intéressait, Jérôme, c'était de comprendre pourquoi en si peu de temps, Jean-Luc Mélenchon est devenu la personnalité politique la plus contestée, pour ne pas dire la plus détestée du pays.
Et pourquoi, selon vous ?
Disons d'abord avec Brice Teinturier les résultats de l'enquête annuelle d'Ipsos, Fracture française, qu'en une année, LFI a perdu 6 points à la question « La France insoumise est-elle capable de gouverner le pays ?» Seuls 26% des Français interrogés répondent « oui ». Et à l'inverse, la dangerosité prêtée aux insoumis a augmenté de 6 points. 63% voient en eux, plus que dans le RN, un danger pour la démocratie et pire encore, chez les sympathisants PS, 69% estiment que cette formation attise la violence. Si on ajoute le manque de démocratie interne, pointé par ce livre récent, La Meute, ou encore son refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, on comprend pourquoi le leader de LFI voit son image à ce point abîmée.
Alors, Jean-Luc Mélenchon rejette ses accusations. Est-ce qu'il vous a convaincu ?
L'homme, vous le savez, est un orateur hors pair qui sait manier le verbe et la rhétorique. Jean-Luc Mélenchon récuse tout propos antisémite et s'il voit une meute, c'est la meute médiatique qui multiplie ses gros titres pour le dénigrer. Argument attendu. Mais là où il fait mouche et donne à réfléchir, c'est quand il dit s'affranchir de ce qu'il appelle l'officialité médiatique pour aller au-devant des milieux populaires et des jeunes toujours très nombreux à le soutenir. À ses amis de gauche qui lui reprochent ses écarts, il répond « Vous avez perdu car vos enfants votent pour moi. » Et il n'a pas tort. Hors micro, Mélenchon se présente comme un intellectuel qui ne s'attendait pas un jour à rassembler ces millions de Français autour de ses idées et de sa personne. C'est là qu'il puise sa force et sa conviction qu'il faudra encore compter avec lui, même s'il ne se déclare pas candidat. Les musulmans qu'il soutient, ce natif de Tanger, rappelle ne pas les avoir découverts hier et il ne supporte pas de les voir humiliés ni traités de terroristes. Mais ce qui est douloureux, confesse-t-il avec des accents de sincérité, c'est d'avoir dressé la communauté juive contre moi. Il croit pouvoir réparer cette déchirure le moment venu et assure que la France n'est pas disponible pour le racisme. Mais est-elle disponible pour Jean-Luc Mélenchon ?
Vous ferez votre avis en lisant Le 1 Hebdo. Merci Éric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson, c'est la chanteuse Solane que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric.
Solane, 25 ans, sacrée révélation féminine de l'année lors de la cérémonie des Victoires de la musique. Elle sera en concert samedi à Rochefort, dans le cadre du festival Sœurs Jumelles. Et c'est de Leonard Cohen qu'elle a souhaité parler en évoquant sa chanson « You Want It Darker ». Cohen, elle l'a découvert à l'adolescence.
J'ai un truc avec les voix graves, moi. Ça m'attrape beaucoup plus. Enfin, il y a des voix aiguës ou qui en voix peuvent me fasciner aussi, mais les voix graves, ça fait résonner un truc derrière mon crâne. Et j'ai beaucoup eu recours à sa musique pour un peu lâcher, parce que sa voix grave, elle me met un peu en hypnose. Voilà, c'est très étrange.
Il a vraiment ce pouvoir-là.
Oui. Parce que j'ai eu beaucoup tendance à dissocier et à partir dans des angoisses qui font qu'on n'est plus au contact avec la réalité, on est juste dans sa tête à partir de partout. Et ses musiques, avec d'autres artistes aussi, mais principalement ses musiques, je les utilisais pour revenir dans mes pattes, en fait. Et pour respirer un petit peu, c'est assez thérapeutique pour moi. Non mais vraiment, lui et Jeff Buckley, les deux. Il n'y a pas d'autres artistes qui me font ressentir ça. Je sais que je suis très très fan de Barbara et d'Anne Sylvestre, mais ce n'est pas du tout le même effet. Mais elles ont plus tendance à m'agiter parce que je trouve ça beau et je trouve ça inspirant. Alors que Leonard Cohen et Jeff Buckley, c'est plus je ferme ma gueule et j'écoute en fait. J'aime bien quand ça éteint mon cerveau.
Ça éteint votre cerveau et ça l'apaise en même temps.
C'est ça. C'est un peu comme de la méditation, parce que c'est ça qu'on recherche en méditation, c'est de juste se concentrer sur une chose. Et quand je suis tombée sur cette chanson, ça m'a fait un énorme déclic. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
C'est en octobre 2016 qu'est sortie cette chanson de Leonard Cohen, Frédéric.
Chanson titre de son 14e et dernier album. Il est mort quelques semaines plus tard. Et c'est notamment pour la simplicité de sa composition que Solane apprécie tant cette chanson-là.
La mélodie des couplets change jamais. Les refrains, c'est vraiment ces deux phrases et c'est la même chose. Et il y a toute cette chorale très très loin. Il y a ce rythme qui nous berce un petit peu. Et en même temps, il y a une énorme puissance qui est dans sa voix, qui est dans ses paroles. Et on peut aimer, imaginer justement un personnage qui avance tout droit, qui avance très digne, très en contrôle de tout ce qui se passe autour de lui. Et moi, j'aime bien m'imaginer ça.
C'est lui que vous voyez ?
Oui, honnêtement, oui, parce qu'il était très charismatique, je trouve, quand même. J'ai eu une période où j'écrivais beaucoup de scénarios et j'écoutais forcément sa musique parce que ça m'inspire. Et j'avais un scénario où j'avais un personnage, c'était la mort, mais qui se balade et qui va parler à différentes personnes. Et je l'ai souvent imaginé comme Leonard Cohen, avec juste un très grand manteau. Et voilà.
La mort ?
Ouais. Je trouvais ça rassurant de me dire que la mort, c'était Leonard Cohen.
La mort, vous y avez toujours beaucoup pensé ?
Pas toujours, mais à mes 12 ans, j'ai perdu beaucoup de personnes en très peu de temps. Et je crois que depuis, c'est un peu comme une deuxième peau. J'ai toujours un peu, aujourd'hui, une parano, surtout pour les gens que j'aime. Parce que j'ai vu que justement, c'était pas une question d'âge, c'était pas une question de santé. Parfois, ça arrive comme ça, et donc la mort me fait très très peur.
Ce sont des amis que vous avez perdus ?
Famille et des amis, oui. Et donc, de me dire que la mort, c'est genre Leonard Cohen, tout de suite, c'est moins grave. C'est-à-dire que juste, ils sont partis avec un ami.
Leonard Cohen, c'est un chanteur que vous avez besoin d'écouter aujourd'hui encore ?
Oui, ouais, très régulièrement. En ce moment, je cours partout dans des tournées. Et moi, j'adore être sur scène, mais j'aime pas la tournée parce que j'ai besoin de silence et d'être chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'ai un peu cette petite tradition. C'est que je vais tout de suite prendre une douche pour me laver de tout ce que j'ai vécu. Et je mets sur Spotify un peu un mix. Donc soit c'est Leonard Cohen, soit c'est Joan Baez. Et ça me rassure vraiment, je le vois comme un câlin. C'est hyper cosy en fait. Enfin, c'est très bizarre à dire cosy pour Leonard Cohen, mais c'est très réconfortant.
C'est bien un chanteur qui a l'effet d'un câlin.
Oui, bah oui. Ça me fait retrouver un état presque d'enfant, presque dans le ventre de ma mère en fait.
Want It Darker, Leonard Cohen. C'était donc, Frédéric, le choix de la chanteuse Solane.
Solane, qui sera à l'affiche de nombreux festivals. Cet été, on pourra notamment la voir le 11 juillet au Francofolie de La Rochelle.
Merci Frédéric. Bonjour Mathieu Vidard.
Et Jérôme Cadet, bonjour.
On part en voyage ?
Oui, à quelques jours des vacances. Comment repenser nos voyages ?
À tout de suite.